Vous êtes sur FM+, ravi de vous retrouver avec Céline Garcia et un nouveau sillage, sillage numéro 6.
Sillage 6 déjà, avec des portraits, la suite de ces portraits. Voilà, ils vont être nombreux là, les personnages de ces portraits. Je rappelle, parce que des auditeurs ont demandé, ce sont des portraits tirés d'un ouvrage qui s'appelle « Faire part à la vie, à la mort », Céline Garcia. Et
sans plus tarder, le
passe tout de suite à table. C'est le titre de ce portrait, vous allez voir, avec des tas de personnages à l'intérieur.
Magnifique.
À table. Quand ils ont eu faim, ils sont passés à table. L'enfant a dit « On dirait un repas de famille. » On dénombrait des retraités, des actifs, des timorés, des audacieux, des surdoués, des dons du ciel, des gloutons, des régimes sans sel, sans sucre, des yo-yos et des anorexiques, des amnésiques, des adeptes du par cœur, des méthodes globales et méthodes syllabiques, des saints, des qui avaient surtout des saints, des directeurs généraux adjoints, des DRH, des qui avaient des idées et qui avaient pris la dernière rame, idée du TGV, des chèvres de Monsieur Seguin, des pâtissiers, des régimes de communauté, des séparés de biens, des séparés tout court, des tout court séparés, des parents de jumeaux, des parents de filles et garçons, le choix du roi, des qui n'ont pas choisi et des petits choix, des pas parents, des appâts de loups, des sans parenté aucune, des tombés de l'arbre généalogique, des posés sur la branche, des qu'est-ce qu'il a vieilli depuis le dernier repas, des demain j'arrête de manger, j'arrête de fumer, des demain j'arrête, et dès demain, je prends un amant, un abonnement, des « je le laisse », des « je laisse la clé à la voisine », je laisse, des « j'aurais dû rajouter du piment », des « à quoi ça sert les serviettes des camps offertes à la Saint-Sylvestre si on les sort pas pour les occasions ?» des « j'ai eu tort de mettre un pantalon, je me sens déjà ballonnée », des « l'année prochaine, je me laisserai pas avoir », des « je voudrais être à l'année prochaine pour ne pas voir les mêmes. » Plus tard, on a allumé la télévision, des chaînes, avec des films policiers partout. On s'est mis à chercher le coupable. C'était le portrait du sillage 6 de Céline.
Merci Céline.
Et vous savez qu'après ce portrait, je reçois un invité et aujourd'hui, c'est un jeune auteur, c'est Léo Betty, pour présenter deux romans, de beaux romans qui sont
« Rampant des villes et limites vides ».
Et limites vides. Voilà, avec quelques extraits aussi de ces textes à l'intérieur pour donner le goût du livre.
Merci beaucoup Céline. On écoute tout de suite l'interview avec Léo Betty.
C'est ça.
Et je crois qu'on avait prévu également des pauses musicales avec un certain Nicolas Maury, Désir en fuite.
Oui, et puis il y aura aussi Richard Bohringer.
Oui, et Grand Corps Malade.
Ah oui.
Ensemble, ils chantent
oui.
Tous les deux.
Oui.
Course contre la honte.
Course contre la honte.
De gauche. Merci Céline, on écoute ça.
Hé hey, tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Hé, hey, tonton, on va faire comment? Bah dis-moi, tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Hé, tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Hé, tonton, on va faire comment? Dis-moi, tonton, on va faire comment? Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles.
Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu. Mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur, il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites, et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup, je te jure petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Y'a les frères, les cousines, les cousins, y'a les petits de la voisine. Y'a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien. Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Y'a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait tout de la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher. On va aimer, regarder derrière, pour rien oublier.
Émission spéciale en ce 3 avril. Merci beaucoup d'être avec nous sur FM+. Émission spéciale parce que nous sommes avec Céline Garcia en émission enregistrée, il faut le dire, puisqu'en ce moment, nous déménageons.
Effectivement, c'est une première émission pour nous de sillage enregistré en raison de ce déménagement, puisqu'on va être au centre-ville de Montpellier, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Voilà, donc c'est ma dernière, hein, mon dernier ici et mon premier enregistrement pour ce sillage numéro 6.
Exactement, déjà.
Voilà, déjà. Voilà. Et le prochain sillage, et le dernier d'ailleurs, et ce sera au mois de juin.
Tout à fait, tout à fait.
En centre-ville à Montpellier.
Oui, dans les nouveaux locaux. Et un invité aujourd'hui, je crois, Céline.
Oui, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir en enregistrement Léo Betti, qui est un jeune auteur qui a publié deux romans aux éditions du Basson. Ces éditions du Basson, elles ont été fondées en 2012 à Charleroi, avec des axes éditoriaux, des lignes éditoriales particulières, le polar, le roman polar, l'humour et le décalé. Et la troisième ligne éditoriale de cette maison d'édition, c'est l'identité, le pays de Charleroi. Léo Betti, jeune auteur du Languedoc-Roussillon, du département de l'Hérault, je crois, et puis qui va ensuite partir pour la région de Lyon, et qui écrit donc des ouvrages assez singuliers, moi qui m'ont beaucoup plu. Les deux ouvrages m'ont vraiment accroché. Ces deux ouvrages, il y a d'abord Rampant des villes.
Ouais.
Alors, ces Rampant des villes, qui sont ces rampants ?
Oh, c'est un roman, on pourrait dire, de l'errance, quoi. Où on a un type qui part faire une formation dans une ville inconnue et qui rencontre quelqu'un. Il y a une histoire un peu d'amitié qui se crée, une amitié un peu trouble. C'est une quête. Le personnage, il cherche quelque chose. Et donc, il essaye de trouver cette chose-là, depuis peut-être toujours, hein, depuis l'enfance. Il cherche cette chose, oui, l'amour, on peut dire. Et il le cherche à tous les endroits. Et autour de lui, et effectivement, c'est une chose qui ne se trouve nulle part autour. Il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une quête de ça, avec dans le même temps la certitude que ça n'existe pas, et donc toutes les situations renvoient à cette absence-là et à la violence qui découle de cette absence. Donc quand on dit que c'est un roman noir, moi je parle plutôt de violence, qui est pas forcément la violence physique, hein, mais la violence de l'existence, quoi, on va dire.
Oui, il y a une violence terrible et qui est très bien servie, je dirais, par votre écriture, parce que c'est votre écriture aussi qui rend ça, qui rend cette violence. C'est pas tout le sang, les larmes, voilà, tout ce qu'il y a, hein, de physique et de trash dans ce premier roman. C'est la qualité rythmique avec laquelle vous rendez parfaitement ce long chemin vers l'inéluctable. Je trouve que c'est une langue d'aujourd'hui, une langue parfois flamboyante, pourtant c'est dans des phrases brèves, des mots simples. C'est terriblement et puissamment efficace, c'est physique, c'est concret, c'est musclé même, je dirais. Vous dites le réel, vous osez dire le réel, vous envoyez, vous balancez même, je dirais. Vous avez une écriture brutale, coup de poing. et écriture dont on ne sort pas indemne. Et c'est rare, les écritures dont on ne sort pas indemne. En fait, c'est ça la littérature, me semble-t-il. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas superficiel ni léger, c'est quelque chose qui va au profond. Et vous rendez parfaitement ça. Est-ce que les mots avec lesquels je parle de votre œuvre vous semblent rejoindre votre œuvre ?
C'est... Pour moi, c'est la question de la vérité. Quand on parle de ma façon d'écrire, donc une langue brutale, moi, je ne la pense pas en ces termes, parce que j'ai pas de volonté particulière par rapport à ma façon d'écrire. La seule volonté que j'ai quand j'écris, c'est d'essayer de rendre compte de quelque chose, de ce que je suis en train d'écrire. Et comme j'essaye de rendre compte d'une certaine vérité qui existe, forcément, ça passe par une forme de brutalité dans la langue, parce que la vérité est toujours brutale. Personne ne veut voir réellement la vérité. Tout le monde peut se reconnaître dans le fait que on va préférer un mensonge, un mensonge agréable à entendre plutôt qu'à une vérité, parce que la vérité, la plupart du temps, c'est brutale. Voilà. Donc peut-être c'est ça qui fait que dans mon écriture, oui, il y a une brutalité.
Il y a une vérité de l'instant, une vérité de l'instable aussi. Vous êtes dans cette écriture-là, vous touchez très bien cette écriture-là de l'instable, et du coup c'est terriblement vivant, même si les, entre guillemets, les thèmes sont pas forcément des thèmes plaisants. Je voudrais donner un extrait qui m'a beaucoup plu dans Rampant des villes. Peut-être l'extrait où vous parlez d'une araignée. Vous écrivez « L'araignée ne bouge pas. Depuis le premier jour, elle est là, dans le coin droit de la chambre. Elle attend peut-être. Moi, ça m'intéresse. Il faut la voir trôner dans le recoin droit de ma chambre. » Ça, c'est autre chose. Elle fait la morte, mais elle voit tout, elle sait tout, elle sait que je la regarde. Je l'observe et elle comprend. Elle ne serait pas là sinon. La vie immobile ressemble à la mort. Pourtant, c'est plus vivant que la vie qui s'agite. L'immobile, c'est la beauté de la vie du dedans. L'agitation, c'est les dernières convulsions de la mort du dedans. Tout à l'heure, je n'y penserai plus. Je ne m'en souviendrai même plus. Demain, je regarderai l'araignée, et c'est une araignée que je verrai. Rien d'autre. Un truc avec des pattes qui bougent pas. Et je fumerai mes clopes, et ça ira comme ça. Rien n'aura tenu. Et comme ça encore demain, parce que demain, faut bien y penser. Même si demain, c'est aujourd'hui. En moins. Ou en plus. Je sais pas. On nous prévient pas de ces choses-là. J'aurais bien aimé qu'on me dise « Les jours, tu verras, ils sont tous pareils. » J'aurais eu le temps de m'habituer. C'est trop de surprises d'un coup. Des années qu'il faudrait pour apprendre ça. Que demain, c'est pareil. Je me suis laissé surprendre, mais c'est sans importance. Demain, j'aurais oublié. Voilà ce petit extrait de Rampant des villes qui a retenu toute mon attention, qui m'a fait penser à un autre extrait d'ailleurs, un autre passage de Duras, de Marguerite Duras, sur la mouche. Duras qui écrit de l'histoire de la mouche, je voudrais dire encore un peu plus, je la vois encore, elle, cette mouche-là, sur le mur blanc. Dans la lumière solaire d'abord, puis dans la lumière réfractée du sol carrelé. On peut aussi ne pas écrire, oublier une mouche, seulement la regarder. Je saute une phrase. Voilà, c'est tout.
Ouais.
Écrit Duras. Voilà cet extrait donc de votre premier roman, Rampant des villes. C'est une histoire un peu noire, hein. Elle est noire. Elle est par moments un peu, c'est un peu glauque, un peu trash, un peu. Et en même temps, c'est extrêmement attachant. C'est un thriller où il y a de l'amour. Il y a un manque d'amour terrible, mais de l'amour, hein, de l'amour en creux qui est là. Et il y a un personnage qui est dans l'errance, comme vous dites. Et puis on sent que on va vers quelque chose d'inéluctable qui est la mort. J'ai retenu quelques extraits de votre deuxième roman. Vous nous parlez un petit peu de votre deuxième roman. Quel est son titre ?
Deuxième roman, c'est Limite vide. Voilà, c'est un roman choral qui est suivi d'un autre texte, mais qui s'appelle La femme du 16. Mais le roman Limite vide, oui, voilà, en fait, c'est une suite de personnages qui parlent, qui viennent dire quelque chose de eux, de leur vie, quelque chose d'intime, avec comme fil conducteur, on peut dire, plusieurs notions qui reviennent, mais plusieurs notions peut-être qui reviennent un peu dans tout ce que j'écris. La question de l'amour, c'est vrai que ça revient, de l'amour comme quête un peu vaine, quelque chose qui est cherché mais qui n'est jamais trouvé, ça c'est ouais quelque chose qui revient. Donc je pense qu'on retrouve ça chez tous les personnages qui parlent dans ce livre, dans Limite vide.
Oui, vous êtes Léo Bettis, un grand amoureux. Alors cette qualification, elle peut surprendre quand on a lu vos deux romans, mais je l'affirme. Il y a quelque chose de très, il y a plein d'amour chez tous ces personnages qui sont dans vos univers. Plein d'amour qui est recherché, pas abouti, qui échoue, qui bascule, qui, vous voyez, toute cette déclinaison, toute cette conjugaison de l'amour, mais tout le temps l'amour est présent.
Je crois que quand j'écris, j'essaye, quand je parlais tout à l'heure de la vérité que j'essaye de décrire, j'essaye de décrire l'enfer de la vie humaine, de l'existence humaine, et de quoi il est composé réellement. C'est quoi l'essence de cet enfer ressenti par tout le monde? Et je crois qu'en fait, c'est l'absence d'amour. Et je crois que ça n'est que ça. Et d'ailleurs, on pourrait dire aussi que on le voit quand on écoute des chansons, peu importe lesquelles, hein, peu importe le style ou les époques, on en revient toujours au chagrin d'amour. On ne peut pas écrire, on ne peut pas produire sans l'amour, comment dire, sans le chagrin d'amour, sans cette souffrance-là qui compose l'enfer, à mon sens, l'enfer des humains. Donc je sais pas si je suis pas un grand amoureux, mais je crois que cette notion de la souffrance liée à l'amour, c'est quelque chose qui ramène tout le monde à un état de l'enfance, à un état d'une grande fragilité, vulnérabilité. Et ça, c'est peut-être, je pense, l'état le plus souffrant. Je pense que le chagrin d'amour, c'est la pire souffrance qui existe, je crois. Sinon, c'est pas ce qui dominerait dans la production artistique, parce que on le sait, la production artistique, quelle qu'elle soit, elle se nourrit de la souffrance. C'est les roses qui poussent sur la merde, quoi. C'est ça, en fait.
Me retrouver, t'envisager, chérir ce seul. but, je rêve à nous. Je me fais des films et dans la foule bat mon cœur anonyme. Je braque les astres du chagrin sous l'arche bleue de mon désastre. Feu dans le ciel, cocktail amer, l'ennemi me charge, brûle ma colère, défiant Mercure. Tu m'apparais debout sur ce pavé, d'humeur à l'aventure. Ta joie me comble, tes yeux me noient. Quand sonne le glas, la nuit me fait de l'ombre. Je braque les astres du chagrin sous l'arche bleue de mon désastre. Feu dans le ciel, cocktail amer, l'ennemi m'assomme. À terre, nos mains serrées pour mélanger l'instant d'après me glace, la place est vide. 20h38, je t'oublierai. Paris s'agite et je sens ton désir en fuite. Cette plaie immense est ma prudence qui m'efface du monde, m'éloigne de toi. Une lueur console mon cœur. Je t'ai aimé de toute ma foi.
Limite vide, roman choral de Léo Betti, chapitre Monoprix. Je suis dans le sol, devant cette porte là, qui s'ouvre, qui se ferme. Sans arrêt, du matin au soir. Ils entrent et ils sortent. Je suis dans le sol. Comme ça. Une extension du sol. Comme un arbre, un pylône, un pot de fleurs, un sac poubelle posé là. Presque moins visible qu'une merde de chien. Ils passent devant. Personne qui me voit. Personne qui regarde le sol. Bien sûr, ils regardent, oui, coin de l'œil furtif, mais veulent pas voir les humains du sol. Les humains comme moi, bien normal. Veulent pas voir ce qui pourrait leur arriver un jour s'ils désobéissent. Rejoindre le sol pour l'éternité. Je suis du sol comme les rats, comme les blattes. C'est ça qu'ils voient. À quoi ils pensent quand ils passent devant moi. Depuis quand je suis là, je ne sais plus, c'est si loin. Le premier jour de la rue est si loin. Plus de mémoire, plus rien de tout ça dans cette tête. Ma vie d'avant, plus rien. Mort souvenir. C'est le sol le matin, sol le soir, nuit du sol, et ça recommence. À jamais, comme ça, à jamais. Et ça recommence. Léo Betti, roman choral, limite vide. Paris. Ce soir, il fait chaud. Mon appartement sous les toits de Paris fait 19 mètres carrés. La brise est arrêtée. Je transpire. Il est 22h30. Sur le toit d'en face, des amoureux sont là. Leur jeunesse sous le jour éteint. Les toits des amours. Une image de vieille chanson française. Je les regarde. Ils sont mon spectacle du soir. De ma fenêtre, ils ne me voient pas. Leurs mains se frôlent. Ils fument des clopes. La fille est belle, le garçon est beau. Leur jeunesse dans la pénombre. Paris vu du sixième étage, le beau Paris. Rive gauche, pas la zone. Je ne les entends pas. Ils sont trop loin. Je voudrais savoir leurs mots, ces mots de rien, ces mots des débuts, ces mots oubliés, ces mots d'un âge qui meurt, mon âge perdu, qui ne reviendra pas. Ils ont la grâce des soirs de lune, je les regarde. Peut-être que la France n'est pas encore morte, c'est leur corps. Ils boivent de l'alcool, le garçon sourit. Il est loin, mais je crois le voir, son sourire. La fille qui le regarde, l'attente, l'envie d'un contact, la douce crainte de l'âge espoir. Le toit est vide. Mes yeux n'ont plus d'accroche. L'odeur du dehors ne dit plus rien. C'est l'été sans été. L'odeur du soir a disparu. Il y a les moustiques et la chaleur. Il n'y a plus autre chose que ça. Mon visage perdu est l'amour impossible. Ma peau du regret et des souvenirs éteints. Peut-être demain, ils reviendront sur le toit. Peut-être ils s'aimeront encore. Il y aura la nuit pour danser avec eux. Il y aura les yeux d'inconnus qui découvrent une joie nouvelle. Leurs corps de jeunesse qui feront souvenir. Peut-être je regarderai encore. Peut-être bien j'observerai longtemps. Il y aura le vent et les cheveux du désir. Peut-être encore, il y aura l'espoir. Merci de nous avoir accordé ce temps d'entretien, Léo.
Merci à vous.
On vous souhaite de continuer dans la même veine d'écriture. Je parle en termes de qualité d'écriture. Merci beaucoup, Léo, et à bientôt.